Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui avec moi en studio, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Breuil. Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Breuil, vous apparaissez ici en tant que, comment on peut dire, vous représentez les éditions Les Inaperçus, c'est ça ?
C'est bien ça, oui.
Et alors, nous avons aussi le grand plaisir de recevoir Lucie Taïeb. Bonjour Lucie Taïeb.
Bonjour.
Lucie Taïeb, vous êtes auteur et vous êtes même auteur associé au Petit Faucheux.
Oui.
C'est ça. Et nos auditeurs ont peut-être assisté à une lecture musicale que vous donniez ce vendredi au Petit Faucheux.
Oui, effectivement. C'était une double lecture. Je lisais avec le musicien percussionniste Thomas Goubin et puis Nicole Galligaris lisait avec Jean-François Pauvros. C'était un peu pour la clôture de la résidence.
Voilà. Et alors, si vous êtes ici toutes les deux à Radio Campus, c'est parce que Frédéric Breuil, vous avez édité des œuvres de Lucie Taïeb, peut-être même avant même la sortie de son roman Les Échappées.
Oui, j'ai eu la chance de publier son tout premier texte de littérature. Voilà. C'était en 2013, ça s'appelait « Tout aura brûlé ». Voilà, et c'était le troisième livre de la maison d'édition Les Inaperçus, donc on a fait un peu nos premiers pas ensemble.
Oui.
Alors c'était quoi ce premier ouvrage, Lucie Taïeb ? C'était comment il arrivait dans votre travail ? Parce que vous êtes aussi vous êtes traductrice, enfin vous avez beaucoup d'autres casquettes, donc cet ouvrage-là, comment il est arrivé dans votre travail ?
En fait, j'écris. Depuis longtemps. Et c'est le site Remunette qui a commencé à publier des textes vers 2010. Et j'avais eu l'occasion de lire un texte en cours, le début d'un texte, à une nuit remue. Et le texte avait été publié à cette suite, à la suite de la nuit remue. Donc c'est des nuits où viennent lire des auteurs en direct et puis qui sont rediffusés en partie. Les textes sont publiés en partie sur ce site, donc remue.net. Et c'est comme ça que Frédéric Breuil a découvert mon travail, qu'elle m'a contactée.
Oui, ouais, moi j'avais trouvé ces textes sur le site, effectivement, et ça avait été une sorte de coup de foudre. Moi, j'avais pas encore la maison d'édition, et puis je recherchais, j'avais ce projet, et je recherchais des auteurs, des jeunes auteurs avec qui j'aurais pu travailler. Et j'ai contacté Lucie à ce moment-là, et avant même, les premiers livres parus. Et puis voilà, ça tout de suite, ça, bien sûr, ça semblait un peu évident.
Alors pour les auteurs qui ne connaîtraient, enfin les auditeurs, qui peut-être sont auteurs aussi, sait-on jamais, qui ne connaîtraient pas encore votre travail, Lucie Taïeb, est-ce que vous voulez nous lire justement un texte qui a pu paraître dans ce premier recueil ?
Oui, donc je vais lire un extrait. Et juste pour terminer cette histoire très brièvement, ayant été contactée par Frédéric Breuil, j'ai poursuivi l'écriture de ce texte et en collaboration avec Sidonie Mangin, donc qui en signe les gravures. Voilà, c'était vraiment un dialogue qui a nourri aussi mon écriture. Donc je lis un extrait. Nous ne sommes pas de ceux qu'un régime opprime. Nos enfants ne se font pas enlever la nuit, nos fils ne sont pas torturés dans le secret des geôles, ils ne disparaissent pas du jour au lendemain. Nous ne réclamons pas les corps de nos enfants assassinés, nous ne nous opposons à aucune force sourde et terrible, aucun régime ne nous écrase. La révolte de nos enfants ne met personne en danger, elle ne met pas de terme à la violence subie. Celui qui cherche un moyen de lutte approprié devra d'abord admettre la liberté dont nous jouissons et renoncer au réconfort de toute rhétorique de l'excès, Nous ne sommes pas en guerre, nos filles ne sont pas contraintes à l'exil, nos fils ne portent plus l'uniforme. Leur colère est infime et douce, ils peuvent s'autodétruire et ne feront en réalité de mal à personne. Qu'ils cherchent à nous nuire est la moindre des choses, nous ne les protégerons pas d'eux-mêmes, car nous ne leur avons donné la vie que pour avoir une raison d'étouffer la haine qui rongeait nos cœurs, le mépris de ce que nous allions bientôt devenir et qu'ils incarnent si parfaitement.
Quelques secondes de silence pour laisser reposer ce texte dans les oreilles de nos auditeurs. Comment est constitué ce recueil, Lucie Taïeb ?
Il est constitué de fragments. On ne peut pas toujours assigner la parole à un personnage précis, mais la structure qui est similaire dans toutes les prises de parole, donc c'est une série de prises de parole, soit la première personne du pluriel, soit en adresse, c'est que il y avait des micro-fictions où deux personnes sont restées et une troisième est absente. Donc il y a un père, une mère et leur fils disparu, un père, un fils et une mère disparue. Voilà, donc c'est des trios dont il manque souvent quelqu'un. Et c'est la question de savoir comment se reconstitue après le nous dans, avec cette absence et dans cette absence. Voilà.
Est-ce que c'est vrai de dire que vous écrivez l'absence, vous écrivez le trou, en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vrai ?
J'écris autour.
C'est la broderie.
Alors parfois, j'aime beaucoup la broderie parce que broder, ça veut dire précisément qu'on va prendre le fil, qu'on le fait passer de l'autre côté du tissu et puis qu'on le refait ressortir à un autre endroit. Donc, dans ce sens-là, on va pas comme dans mes narrations ou là dans ce texte qui est, c'est, je sais pas. Pour Frédéric Breuil, c'était de la poésie ou si elle l'a signé à un genre d'ailleurs particulier.
Je dirais que c'est de la poésie, oui.
Ouais. Enfin, c'est voilà. En tout cas, s'il y a une narration, une fiction, c'est éclaté. Donc, il n'y a pas le fil dont on va suivre la trame en direct. Mais effectivement, comme dans la broderie, quelque chose qui passe de l'autre côté
oui,
et puis qui réapparaît
plus loin.
Voilà. Ouais. Et je sais, ben, pour cette question de l'absence, oui, c'est une des questions qui me suivent et que je continue de creuser. Enfin, entre ce premier texte et puis le dernier paru, ça
l'idée de la silhouette, en fait, comment on écrit une silhouette pour que les gens restent aussi quelque part.
Oui, la question de l'absence, elle peut être variée ou c'est elle-même une variation de celle du deuil ou de l'abandon et de comment continuer à perdurer avec cette absence. Parce que enfin, c'est d'une grande banalité ce que je vais dire, mais quand quelqu'un n'est plus là, on ne peut pas faire comme si... il n'y avait personne, il n'y avait jamais eu personne. Donc il faut continuer... dans cette absence et avec cette absence, donc oui, avec un creux, il y a une image comme ça de le creux de la tête sur l'oreiller ou voilà.
Et alors cette idée de faire cohabiter les textes avec des gravures, qui de vous l'a eu en fait ? Qui a eu cette idée de mettre des gravures pour accompagner les textes ?
Ben, en fait, c'est le principe même de la maison d'édition. À chaque fois, le texte cohabite avec un travail plastique, que ce soit de la gravure, de la peinture, de la photo. On a un petit peu tous les styles de travaux plastiques. Voilà. Et en fait, l'idée des livres, c'est vraiment que les deux artistes produisent leur œuvre ensemble, enfin, qu'ils la construisent, qu'ils la tricotent, j'aime bien dire ça. On revient toujours aux travaux d'aiguille. Voilà, donc c'est-à-dire que les livres sont faits spécialement pour la maison. C'est pas des manuscrits qui arrivent comme ça et voilà dont on s'en parle. Comme ça, c'est des histoires qu'on fait naître. Voilà, et en fait, il y a un lien entre tous ces bouquins au final.
Alors, on a de la chance parce que, auditeurs, vous ne pouvez pas le voir, mais Frédéric Breuil nous a apporté ici une partie des livres qui sont parus aux inaperçus. Et donc, on voit en effet qu'il y a des choses très différentes. Déjà, à l'œil, donc là, il y a une constante, c'est la couverture noire. Et encore, j'en vois un ici qui
fait exception,
qui est blanc. Alors, est-ce que vous voulez nous raconter peut-être comment sont nés les ouvrages qu'on voit là? Parce que j'imagine que c'est une aventure à chaque fois différente.
Ah oui, oui, oui. La maison est née en 2012. Et puis, elle poursuit son petit bonhomme de chemin depuis lors. Il y a peu de titres. Il y en a 11 pour l'instant. Donc ça va doucement. Mais parce que c'est des ouvrages qui prennent du temps à construire. Parce que justement, l'idée, c'est de marier des artistes qui vont se surprendre, dont les univers correspondent et se frotter, comme ça. Et alors, c'est un petit peu long. C'est pas toujours l'auteur qui est à l'origine du livre, ça peut être des fois le plasticien. Et une fois que j'ai l'accord de la personne avec qui j'ai envie de travailler, on va lui chercher son binôme. En fonction d'un peu de ses goûts, mais pas seulement. Voilà, et donc c'est aussi, on va dire, ma part de création dans l'histoire, c'est de faire rebondir des choses, de faire naître des choses qui n'auraient pas forcément eu lieu. Voilà, et à partir de là, soit l'un commence à écrire, soit l'un montre ce qu'il a envie de montrer de son travail actuel, et puis, ils se nourrissent l'un l'autre.
Donc c'est l'intuition qui est la base de ces colocations, si on peut dire.
C'est très empirique en fait. C'est vraiment au cœur. C'est-à-dire que je me fais des petits réservoirs de personnes avec qui j'ai envie de travailler et au fur et à mesure, je vais plonger dedans et voir ce qui va advenir. C'est pas du tout rationnel ou quoi. C'est plutôt vraiment au feeling. Voilà, il y a des collaborations qui se passent bien, d'autres un peu moins bien, et d'autres très 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 bien. Et qui après perdurent, comme par exemple pour Jour Redoutable avec Christophe Manon, Frédéric Oberlin, où maintenant ils travaillent beaucoup ensemble, Frédéric Oberlin étant photographe mais aussi musicien, c'est-à-dire qu'il maintenant accompagne très souvent Christophe Manon dans ses lectures. Voilà, parce que ça a vraiment très bien marché entre eux.
D'ailleurs, celui-là, il est surprenant. Donc, Jour Redoutable, Christophe Manon et Frédéric Oberlin. Parce que c'est un peu œuvre au noir, en fait.
Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Ouais, c'est des photos qui tiennent un peu du sténopé.
Et puis, le texte est blanc sur des pages
sur
noires.
Sur fond noir, oui, ouais. Oui. C'est une envie de l'auteur, ouais. Particulièrement. Et donc on essaye de répondre le mieux possible à la commande pour que le texte se sente bien mis en valeur.
Peut-être que je me trompe parce que j'y connais rien, mais j'ai l'impression que c'est assez rare quand même de faire ça, de faire une chose comme ça, un texte blanc sur fond noir.
Bon, ça existe, mais c'est vraiment pas effectivement la majorité. Ça tient souvent aussi du livre de photos.
C'est ça, là, ça fait vraiment livre de photos. Donc on voit déjà avec les œuvres que vous avez apportées ici, il y a une unité bien sûr de collection, mais ils sont tous autonomes. En fait, on voit que là, ça c'est une chose. Le livre de Lucie Taïeb avec des gravures, ils sont très différents. Les uns des autres, donc vous êtes une créatrice d'univers, alors.
Ouais, si j'arrive à donner cette impression-là, c'est super. Mais c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, de surprendre déjà, de surprendre un petit peu, pas avoir quelque chose de trop habituel. Enfin, ils ont quand même une unité, mais l'idée, c'est de faire découvrir tout ce que j'aime, en fait, tout ce que j'aime. Et c'est à la fois de la peinture, voilà, de la peinture d'architecture, des dessins au trait, voilà, des gravures, des eaux-fortes. Voilà, mais...
Ça fait presque, vous allez me dire si je me trompe, mais ça fait un peu encyclopédie des arts du XXIe siècle. Il y a aussi bien les formes littéraires que plastiques, parce qu'on voyage en fait dans les arts avec vos livres.
Mais, alors, je dirais que, pour ma défense, je dirais que ma formation, c'est les beaux-arts à l'origine. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Dans toutes les matières, époques, styles.
Alors je précise, c'est pas du tout une critique. Hein, quand je dis qu'il y a un côté de voyager dans les arts, c'est, pour moi c'est positif, je le dis.
C'est vrai, mais et puis voilà, il n'y a pas quelque chose qui prédomine voilà, sur le reste. Donc oui, ben je voyage moi déjà à l'origine. Mais, et puis c'est vrai que on peut parler des textes également. On va passer voilà d'une poésie un petit peu lyrique comme ça à une micro nouvelle très très réaliste, ou sinon un travail de la langue proche du terroir pour l'entre-terre par exemple. Enfin voilà, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître des choses qu'on voit peu finalement, enfin qui sont pas habituelles, classiques, normées, voilà.
Chic, je vois Lucie Taïeb que vous pointez un livre, vous essayez d'en attraper un.
Non, j'essayais de faire signe discrètement.
Bon bah zut, je fais tomber. C'est bien la peine de pas faire d'image en radio. Je casse tout, pardon.
À Frédéric pour lui dire l'entre-terre de Benoît Vincent, la poésie lyrique de voilà, juste que d'entendre les
noms
des auteurs et des illustrateurs.
Est-ce que l'une de vous voudrait lire justement un extrait de l'entre-terre? Hop, on tend le livre à Lucie Taïeb. Voilà. Pour qu'on puisse entendre aussi cette poésie.
On a laissé tranquilles de nombreux arbres, chargés aussi, eux, comme des paniers de fête, mais nous devons nous arrêter. Une bonne moitié du terrain, abandonnée à elle-même, l'arbre rendu à lui-même, sa progéniture à son pied. Un panier renversé, tout ce bien de Dieu roulé dans la poussière sans pluie depuis des mois, les bromes débrisés, les mousses à l'agonie. Le 13e dessert évanoui, englouti déjà dans la moisissure hachurée, les couvaisons de la mouche, le mufle de la cinglarde, mais on doit s'arrêter. On a fait plus qu'on a de mains, on a trop fait, on a refait. C'est la saison aussi, elle est arrivée d'un coup. Une heure, c'était grand creux, et longue journée, et la chaleur baisée à te croire encore été, puis tout d'un coup, un moins ravi qui traîne à la drèche, guette les rameaux, un grappelé d'ombre sur la terrasse, comme une portée musicale, les fruits pris dans la treille. Tiens, les olives, elles sont mûries. Pardon pour l'accent.
Pas de problème, est-ce que vous voulez juste rappeler de qui?
Oui, donc c'est l'entre-terre de Benoît Vincent.
Voilà, qui est paru. Donc,
il est paru tout à l'heure, tout à l'heure, au mois de juin, quoi. Au mois de juin de cette année. Oui, c'est un des derniers ouvrages publiés, avec aussi Habiter, Trace et Trajet de Sereine Berlotier et Jérémy Liron. Et une nouvelle petite collection qui s'appelle La mer dangereuse, où on trouve ce petit livre qui s'appelle Des rendez-vous d'Isabelle Bonaluciani.
Une nouvelle petite collection. Alors qu'est-ce qu'elle a de... Pourquoi vous avez eu besoin, Frédéric Breuil, de faire une, cette petite nouvelle collection.
Alors, cette année, donc, il y a eu en fait deux nouvelles collections. L'Entre-Terre qu'on vient de lire là, il est paru dans une collection qui s'appelle Narratus et qui tient du petit roman, on va dire, tout va être comme ça. Donc j'ai éprouvé le besoin d'ouvrir deux nouvelles collections pour justement permettre d'avoir des textes sans plasticien, on va dire. Parce que justement, ces textes à deux sont vraiment voilà, très longs à mettre en place et tout ça. Je trouvais dommage de passer à côté de certains manuscrits qu'on m'envoyait, qui étaient déjà un peu prêts, mais qui étaient beaux quand même. Du coup, ils n'étaient pas pour moi et c'était embêtant. Et alors, la petite collection La mer dangereuse, c'est une référence à la carte de Tendre. La mer dangereuse, c'est le dernier obstacle que les amoureux traversent, enfin rencontrent sur leur route. Et c'est la passion amoureuse. Donc c'est une collection qui va être dédiée à ce type de texte, que ce soit de la poésie, de la prose. Voilà, c'est un petit format, assez court, et voilà, qui va parler de l'amour un peu passionnel, parce que c'est un sujet qui m'intéresse.
Et alors, c'est parce que c'est-à-dire que ça, comment dire, qu'aucun autre éditeur n'a éprouvé le besoin de mettre en avant des textes d'amour, c'est triste.
Oh, si, c'est quand même un petit fond de commerce, quand même. l'amour, je veux dire. Là, ben, on va être vraiment sur des textes poétiques, quoi. Enfin, même si c'est de la prose, ce sera prose poétique et quelque chose, des fois, d'un petit peu plus cru, enfin. Des choses comme ça.
Voilà, des choses pas pour les enfants ou alors ouais. À lire en cachette de vos parents.
Exactement.
Mesdames, je vous propose de faire une première pause musicale et de continuer notre échange après. Puisqu'on parle de galaxies et d'étoiles littéraires, je propose qu'on écoute Mélodie Gardot qui chante Les étoiles. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tour, bien sûr.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rodo, lado. Thank you.
Mélodie Gardot, Les Étoiles sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours La Méridienne. Et je suis toujours en studio avec mes deux invités, Frédéric Breuil et Lucie Taïeb. Alors, hors antenne, mesdames, vous m'expliquiez que vous aviez pour projet une collection étrangère. Alors ça fait une transition parfaite avec Mélodie Gardot qui chante avec son bel accent en français Les Étoiles. C'est quoi ce projet de collection étrangère ?
Ben, ça fait un petit moment quand même qu'on se pose la question, toutes les deux, de ce qu'on pourrait faire autour des littératures étrangères. Alors Lucie, hein, comme vous le savez, elle est traductrice aussi. Voilà, elle a traduit de nombreux poètes autrichiens et ça fait longtemps qu'elle me parle de son envie de me proposer des textes comme ça.
Et il se trouve que je suis tombée sur le travail d'une poète d'une poète autrichienne qui écrit aussi pas mal de pièces radiophoniques et de pièces qui s'appelle Margaret Kreidel, dans un autre contexte, enfin pas en voulant la traduire moi-même, mais simplement par intérêt. Et en échangeant un peu avec elle, il se trouve aussi que l'un de ses recueils était déjà traduit par François Mathieu, qui est un grand traducteur de poésie de langue allemande. Et voilà, en faisant simplement lire le texte à Frédéric, le projet a pu trouver son incarnation et démarrer comme ça avec ce texte.
Voilà, et oui, c'est un magnifique texte dont il est encore délicat de parler, on va dire. Mais c'est une langue magnifique et c'est une sorte de monologue qui pour moi se prêterait très bien à la mise en scène. D'ailleurs, elle a été mise en scène là-bas à Vienne. Donc c'est quelque chose. Enfin, c'est pas ma spécialité, mais je trouve que ça serait une très bonne idée, de prendre ce texte et de le monter. Voilà. Mais déjà dans un premier temps, on va sortir ce texte en français à partir de mars. Enfin, il sera là en mars. Et Margaret Kreidel sera là, elle aussi, un petit peu. Elle va venir en France, comme ça, autour du texte. Dans un festival à Poitiers, tout ça, on va essayer de lui donner une belle visibilité ici, quoi. Voilà, mais la question du domaine étranger, c'est vraiment quelque chose qui moi m'intéresse, qui nous intéresse depuis longtemps, et j'espère que ça va. Parce qu'en fait, déjà la poésie en France, c'est pas simple, hein, quand même, pour la faire exister et la montrer. Et alors une poésie qui vient d'ailleurs, comme ça, enfin, c'est encore plus délicat, on va dire, parce que les gens ne vont pas connaître forcément Margaret Kreidel tout de suite en arrivant. Donc c'est une sorte de pari, hein, mais moi j'y crois bien.
Ouais, elle a déjà été un peu traduite ici. Donc il y a eu une traduction collective qui était dans le cadre d'une session de traduction au Centre international de poésie de Marseille. Et puis une traduction aussi d'une pièce par Nathalie Quintane qui avait été jouée. Donc elle est pas complètement inconnue.
Non, bien sûr, mais...
C'est aussi comme ça que
on l'a rencontrée.
C'est vrai,
ouais. Donc tout ça sera en mars.
Et donc c'est vous allez publier la traduction, mais est-ce qu'il y aura aussi peut-être pas une édition bilingue, alors une édition
Alors elle sera commentée. On a normalement une préface de Nathalie Quintane, justement, qui va nous parler de son amour de Kreidel. Mais c'est pas une édition bilingue, parce que je voudrais que le livre reste un petit peu dans les standards des autres. Et ce sont pas des ouvrages universitaires.
Alors l'idée, c'est pas forcément un ouvrage universitaire, mais peut-être de s'arrêter sur un mot et de dire Parce que le traducteur, c'est aussi un auteur. Et donc de dire, moi, auteur, en fait, ça, cette idée, ce, comment dire, ce sentiment, je le brode comme ça, en français. Donc je ne sais pas parce que comment rendre aussi le travail d'un traducteur. Parce que pour le lecteur, sauf s'ils sont comment dire, intéressés à ces questions-là, c'est peut-être pas évident en fait de considérer toujours le travail du traducteur est réel. Et donc du coup...
Oui, ça c'est toi qui pourrais nous en parler le mieux, je crois.
Il y a des manières de faire qui sont, voilà, qui sont aussi des revendications des traducteurs et des traductrices. Alors, rendre compte du travail du traducteur, je ne sais pas exactement dans la lecture comment ça peut se jouer. Il y a aussi des manières de traduire qui mettent plus ou moins l'accent sur le geste même de la traduction, en disant, enfin, avec l'idée de ne pas écrire un texte comme s'il avait été écrit en français, mais de faire sentir dans la manière dont c'est traduit que ça vient d'une langue étrangère. Mais après, très pratiquement, avoir le nom du traducteur sur la couverture du livre et pas caché à l'intérieur quelque part, ou ce genre de choses. Voilà, il y a effectivement un enjeu de visibilité, mais qui peut être résolu, en tout cas avec dans la présentation même du livre, en montrant qu'il y a cette attention au travail du traducteur, et juste faire apparaître son nom, le mentionner quand on parle du livre, et pas seulement mentionner l'auteur, tout ce genre de choses.
Voilà. Et alors une autre question, j'espère pas trop bête, mais pourquoi pas une édition sonore, pourquoi pas un ajout d'un enregistrement avec l'ouvrage, d'une lecture en fait du texte, soit dans la langue d'origine ou alors lu par l'auteur quand il est vivant ou vivante, pour entendre aussi cette voix, comment un auteur lit son propre texte, parce que des fois c'est très différent de la façon dont le lecteur le comprend ou le lit.
C'est déjà ce qu'on essaye un petit peu de faire chez Les Inaperçus, où chaque livre a sur le site un extrait sonore, hein. C'est pas tout le livre malheureusement, qui donne une idée de la couleur, enfin voilà, lu par l'auteur, de ce que ça peut être. Moi je suis assez sensible à ça, on va dire. Mais alors après, avoir totalement... comme si on montait une sorte de... Enfin, il y a plein de choses qui seraient possibles sur la mise en voix, ça serait formidable, mais c'est carrément un autre travail. Enfin, ça c'est autre chose qu'être éditeur, je pense. Enfin, du moins, ça va plus loin. De faire naître une édition sonore comme ça, complètement, et puis peut-être tous les auteurs ne veulent pas se prêter à ce jeu-là. Il y en a qui aiment beaucoup, comme Lucie qui lit très très bien, et qui fait beaucoup de performances et des choses comme ça, et d'autres qui sont plus, on va dire, secrets, sauvages, et voilà, et où déjà ils se prêtent à l'extrait sonore avec grâce quand même, mais pas trop longtemps.
Mais enfin, je me tourne vers Lucie Taïeb, alors, parce que, comme vous le dites, Frédéric Breuil, il y a des auteurs pour qui c'est difficile d'incarner leur texte, en fait, même quelque part de se mettre en scène, et de dire je suis la voix de mon texte, c'est particulier comme démarche.
Oui. Alors, je suis pas la seule voix de mon texte, mais il y a aussi moi j'aime la voix, donc par définition j'aime la radio aussi, et de pouvoir être entendue sans être vue, pour moi c'est un petit peu l'idéal, mais c'est aussi lié à la manière dont j'écris, c'est-à-dire que j'écris vraiment. Alors pas exclusivement à l'oreille, parce qu'il y a plein d'images qui sont importantes et qui me servent aussi de déclencheur à l'écriture. Mais en tout cas, le texte est un texte que j'entends à un moment donné. Enfin, il faut voilà qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une voix qui se mette en place. Et cette voix, d'ailleurs, n'est pas forcément la même. Et pour mon plaisir d'écriture, de préférence pas la même d'un livre à l'autre. Pas exactement la même. Il faut que... Voilà.
Alors comment vous, ça veut dire que vous, les mots sonnent dans la tête avant d'être mis sur le papier?
Alors très pratiquement, s'il n'y a pas une impulsion, une phrase, un début de quelque chose, donc des mots qui sonnent dans la tête, j'écris pas. Et je commence à écrire comme ça. Parce que là, il y a ce texte, donc Tout aura brûlé, le début, qui était aussi le texte que j'avais lu à La Nuit Remue, que je lis là, juste pour le faire entendre. Oui, c'est à toi que je parle. Ne me regarde pas avec cet air de petite frappe. Ne me regarde pas avec cet air surpris, ça ne prend pas. Ne me regarde pas. C'est à toi que je parle, ça fait un moment déjà que je ne vois plus tes yeux, un moment que tu baisses la tête, pourtant je ne t'ai pas appris à détourner le regard. Je t'ai appris à faire face comme un homme, à faire ce qu'il y a à faire, sans broncher je t'ai appris. Ça m'en a coûté, ce n'est pas pour le plaisir que j'ai étouffé le reste en toi, en moi, mais pour t'apprendre. Cette voix-là, à un moment donné, je l'ai entendu. Les débuts de mes textes, qui ne se trouvent pas forcément au début des livres, mais portent en tout cas la trace d'un rythme aussi, d'une espèce de rythme qui se met en place dans la parole et de ton. Ouais.
Et alors, comment on croise les voix, comment on les superpose, comment on fait ça, comment on les tisse ensemble?
Bah, c'est un peu peut-être tout le chemin qui s'est fait aussi et ça me fait plaisir de pouvoir parler de mon premier livre, donc Tout aura brûlé, et du dernier, Les Échappées. Donc c'est un peu tout ce chemin-là, parce que dans Tout aura brûlé, le premier, j'avais des voix et des situations, donc c'est du haut où il manque la tierce personne, mais le travail de composition a vraiment été, j'ai coupé à tel endroit, recomposé, aussi avec la lecture de Frédéric Breuil, qui a été très importante, de me dire oui, dans cette version, le texte, oui, là, peut-être que ça fonctionne, là, ça fonctionne moins bien. Donc voilà, il y a tout un travail de composition et de recomposition du texte. Et dans Les Échappées, où il y a aussi un tissage de voix, les choses se sont faites d'une manière plus organique et plus simple pour moi, parce que j'ai choisi peut-être aussi à un moment donné une manière plus directe, c'est-à-dire j'avais deux intrigues et puis j'ai entrelacé les deux fils narratifs, et à l'intérieur de ces fils narratifs, donc qui sont clairs, qui partent d'un début et puis arrivent plus ou moins à une fin, je laisse de nouveau émerger les voix. C'est-à-dire que c'est pas forcément le même personnage du on n'a pas un jeu du début à la fin, ou un tu du début à la fin, ou une troisième personne du début à la fin. Il peut y avoir un jeu, et puis qui est une personne qui parle, et puis après, dans un autre moment du texte, ça va être un autre jeu. Donc les lecteurs m'ont dit, alors les premières lignes, on sait pas qui parle, on sait pas, et puis comme on sait quand même un peu où on en est de l'histoire, après on identifie qui parle. Et moi, j'ai fait ça parce que c'était à ce moment-là qu'il y avait une voix qui m'intéressait, ou une voix qui cristallisait quelque chose, qui allait pouvoir prendre la parole. Enfin, je cherche aussi des moments un peu d'intensité, des moments de...
Mais alors, dans ce roman, hein, les Échappées, édition de L'Ogre, alors vous dites, Lucie Taïeb, il y a deux intrigues, alors bon, j'ai l'impression qu'il y en avait plus que ça. J'avais l'impression qu'il y avait... deux fils, un rouge et un bleu, admettons, mais qu'il y en avait plein d'autres tout autour, et qu'il y avait l'idée de cette trame, en fait, admettons, des fils horizontaux et verticaux, rouge-bleu, et que vous êtes ingénié à faire passer des fils d'une histoire à l'autre, en fait, des choses communes qui traversent les deux histoires, qui les relient, qui les séparent, et qu'en fait, c'est au-delà, c'est vraiment beaucoup plus que deux histoires.
C'est vrai. Alors dans chaque fil, si on reste dans l'image textile, si on regarde un fil de très près, en fait, on voit que c'est plein de petits fils très fins qui sont torsadés ensemble. Dans chaque histoire, donc il y a deux trames. Dans chaque trame, il y a plusieurs histoires. Mais ce dont vous parlez, j'ai l'impression, c'est tous les échos possibles. Entre les deux trames, et évidemment, c'est c'est que ça puisse jouer à ce niveau-là, enfin que quelque chose puisse se passer à ce niveau-là qui m'intéresse. Mais moi, il y a certains échos que je maîtrise, enfin certains échos dont je sais qu'ils sont là, ou qui sont là en tout cas pour moi quand j'écris. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce dont j'espère que ça peut se passer, c'est que quand on lit, il y a des échos qui apparaissent auxquels moi j'aurais pas pensé, parce que chacun fait son chemin dans les deux histoires et entend des choses ou fait des relations. Ou, voilà. Qui...
D'ailleurs, je m'étais même demandé si vous aviez pas commencé les échappées par la scène finale. Par cette. Bon, on va pas non plus dévoiler, mais enfin, il y a une histoire de plage. Et je me suis demandé si en fait cette vision, peut-être cette hallucination de scène sur la plage. Je me suis demandé si c'était pas ça qui avait déclenché toute l'écriture du livre.
Alors, non, c'est vraiment la scène qui est arrivée à la fin, mais en fait, il y a, pour moi, quand j'écris, il y a des choses secrètes, il y a des déclencheurs secrets, ou donc ça peut être soit des choses personnelles qui évidemment vont pas apparaître clairement, soit des préoccupations, soit des questions, soit des... Et là, dans cette scène de la plage, enfin, pourquoi vous vous êtes posé, si je peux vous poser une question, pourquoi vous vous êtes demandé ça, enfin, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, la scène de la plage, pour que vous posiez cette question?
Parce que j'avais l'impression qu'elle pourrait être aussi bien au début qu'à la fin du roman, en fait. Elle contenait toute l'histoire, enfin qu'elle contenait tout, cette scène-là, qu'elle résumait tout. Et qu'en fait, dans l'idée, parce que le roman, c'est une boucle aussi, en fait. Et donc, en fait, je me disais finalement, si le début pourrait être à la fin ou la fin au début. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ces deux histoires qui se croisent, dans ces personnages même qui se croisent, qui se transforment. Que finalement il y a une idée de boucle dans l'espace, dans le temps et à travers les personnages, et donc finalement pourquoi ce serait plus au début qu'à la fin, enfin je sais pas moi l'auteur, mais
oui,
voilà, après tout je me dis ça aurait pu peut-être être mis au début.
Oui, alors pour la boucle je vous rejoins avec le peut-être la nuance que il y a une ligne, il y a deux lignes en fait. Et puis ensuite, les lignes effectivement font une boucle. Mais il y a quelque chose de linéaire au début. Enfin voilà. Et puis ensuite, on se retrouve dans une espèce de boucle temporelle qui fait aussi que les deux histoires qui se passent pas a priori au même moment peuvent se croiser parce que on est dans une espèce de boucle temporelle. J'ai vraiment essayé de trouver quelque chose, une image qui peut-être condense tout, et donc il y a effectivement à la fois la question de est-ce qu'on regarde ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on regarde ce qui est en train d'arriver, ou est-ce que on essaie d'intervenir et de faire un pas dans ce qu'on voit pour peut-être intervenir, changer, modifier. Enfin, est-ce qu'on est des acteurs de ce qui se passe ou est-ce qu'on est juste des spectateurs impuissants et passifs? Donc il y a cette question-là qui apparaît à la fin. Et puis il y a aussi toute la question de ce qu'il advient des corps, puisque la fin c'est une scène sur la plage, donc où on voit des corps immobiles et comme morts sur une plage en été dans une scène de vacances, et qui était pour moi une manière de faire un écho très lointain et indirect au fait qu'on trouve effectivement des corps morts aujourd'hui sur les plages, et de la forme d'impuissance de la forme d'impuissance qu'on peut éprouver, ou d'effroi aussi qu'on peut éprouver face à ces corps morts qui arrivent sur nos rivages. Mais c'est quelque chose, voilà, qui est juste là, à la fin, comme un écho très lointain à une réalité actuelle, mais que je n'aborde absolument pas de front dans le texte. Et c'est, voilà, c'est juste.
Mais il y a ça qui. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, il y a cette espèce d'horreur immuable qui revient. Qui bruissent en fait partout dans le texte, qui est jamais dit frontalement, mais une espèce d'angoisse qui traverse tout le roman et qui scintille par endroits dans le texte, et voilà, donc Moi, j'avais pas pensé peut-être immédiatement ces corps jetés par la mer sur la plage, mais par contre, mais peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais ce qui, moi, m'était tombé dans l'œil, c'est quand même Stern, l'étoile, et voilà que ça revient là, comment aussi. Enfin, moi, j'ai eu du mal à ne pas penser aussi avec le personnage d'Oscar, Günther Grass, là, le tambour, où il y a justement un petit Oscar. Et puis une scène où Oscar se met à un enfant Oscar qui devient, comment on dit, dysorthographique, dyslexique, enfin, qui inverse les lettres, les chiffres. Voilà, et donc il y a un jeu sur 34, 43. Et donc voilà, ça peut aussi faire allusion à des dates historiques. Et donc voilà, moi, c'est ça qui m'a sauté dans l'œil aussi. Alors peut-être que c'est une surinterprétation avec mes propres préoccupations, mais en tout cas, ça me semblait pourtant évident qu'il y avait un écho là-dessus, sur ça, sur cette histoire-là.
Oui, non, vous dites de l'horreur qui bruisse est très juste, et toute la difficulté quand on ne parle pas comme, enfin voilà, mon roman ne se situe pas dans une période identifiable, je parle pas d'un événement en particulier, puisqu'on est dans un univers un peu parallèle. Toute la difficulté et la question de jusqu'où pousser la référence ou la possibilité d'identification des choses, et sans donner non plus l'impression qu'une horreur serait identique à une autre. Enfin voilà. Et donc en fait, moi, je contourne, ou je sors de cette difficulté en ne donnant aucune clé explicite, aucune clé dont on puisse être absolument certain, en disant en fait cette horreur c'est la Seconde Guerre mondiale, cette horreur c'est les corps des migrants qui s'enfoncent dans l'eau, c'est le naufrage, c'est voilà, je donne pas un événement, mais je la fais bruisser, enfin, ou j'essaie de la faire bruisser, ou juste elle est là dans ma perception sensible du monde, peut-être c'est plus ça qui est plus juste. Et après, les lectures lui donnent un corps ou un visage variable.
Ouais. Et donc, parce qu'on a cette horreur qui bruisse là, mais il y a aussi des choses, pour le coup, très contemporaines. Parce que, on voit par exemple, Stern qui dit « ami, ami, ami », mais ça peut faire penser aux réseaux sociaux aussi, cette idée... de qui sont vraiment des amis. Et puis on retrouve aussi tout ce qui est le burn-out, hein, les gens qui meurent d'épuisement au travail, en fait. Et ça, c'est des choses très contemporaines, pour le coup, qui raccrochent cet espace-temps narratif qui est hors de tout, ça le raccroche aussi au temps présent, ces choses-là.
Oui, alors deux choses sur les deux aspects. Sur les amis, ça résonne avec les réseaux sociaux. Moi, ça pour moi, c'était avoir cette voix, donc d'une forme. Donc, on est dans un régime autoritaire donc dans une des deux trames, hein, où la seule chose qui compte, c'est le travail, et les gens sont complètement aliénés, complètement soumis. Et il y a une éthique du travail. Donc aussi, il y a l'idée qu'on va se réaliser soi-même en travaillant, qu'on peut en être fier, qu'on peut y puiser de la joie et de la... Voilà, donc il y a l'idée d'adhérer aussi à une idéologie, ce qui est un peu le comble de la soumission, parce que finalement, les gens y trouvent leur compte, même s'ils s'épuisent. Et donc, Stern, c'est cette voix qui s'adresse aux gens par le biais de petits transistors qui circulent sous le manteau. Et ça rejoint une question que je me pose aussi, mais qui est aussi liée à celle des réseaux sociaux, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse? Enfin, déjà, comment les voix officielles s'adressent au peuple? En leur parlant comment? Avec douceur, avec bienveillance, ou plutôt avec mépris, de haut, Voilà, donc ce genre de questions-là. Et puis, à qui est-ce qu'on s'adresse quand on écrit un roman ou quand on écrit de la poésie? Comment est-ce qu'on parvient? Alors, on parvient pas aux gens via les petits transistors, quoique là, un peu. Et puis, justement, si. Ou alors, grâce aux livres, comment circulent les livres? Est-ce qu'ils circulent sous le manteau, dans des petites librairies, dans des petites maisons? Ou voilà. Qui est-ce qui a l'impression? Enfin, comment est-ce que les choses sont reçues? Enfin, voilà, ça c'est toute une question. Et puis de fait, les réseaux sociaux aussi, c'est une manière de faire circuler la parole, de pouvoir organiser des mouvements, de pouvoir faire que les gens s'organisent. Et l'autre question, je me suis perdue.
Et bien moi aussi.
Ah
le burn-out.
Ah, ah oui, sur le burn-out. Merci Frédéric. C'est que bah, je crois pas qu'on soit juste de son temps ou qu'on soit juste... Enfin voilà, on est à la fois de son temps. Et donc moi, mon temps là, c'était 2015 et la réforme des retraites. Et puis après, travailler plus pour gagner plus. Et aujourd'hui, ça s'est pas arrangé. Hein. On est... Voilà. Tout va toujours tellement bien dans le monde du travail, de mieux en mieux. Donc c'était à la fois 2015, et puis en même temps, en étant ancré dans 2015, on a dans nos villes, et puis dans nos pensées, dans nos lectures, toute l'histoire, tout ce qui nous précède, peut-être. Voilà, on est aussi dans une espèce de grand flot temporel qui nous traverse et qui nous habite. D'où le fait que ce soit à la fois ancré avec cette thématique du burn-out, et puis que ça puisse résonner avec d'autres moments, d'autres périodes.
Réfléchis à l'idée de cette voix de la radio, puisque la radio, en fait, c'est un personnage à part entière dans votre livre Les Échappés. Et donc cette idée de voix désincarnée, parce qu'il y a un rapport particulier au corps quand même dans votre livre, dans le corps qui se transforme, qui se réinvente, qui... que ce soit le corps social ou le corps personnel, et donc la voix sans corps, il y a une réflexion particulière sur ça aussi.
Alors, pour ce qui est de la voix de Stern, pour moi, c'est pas tant une voix sans corps qu'une voix dont on connaît pas la source exactement. On sait pas qui est Stern, on sait pas d'où elle parle, de quand elle parle. Mais du coup, Stern, ça peut être tout le monde. Et elle peut être incarnée, réincarnée par qui voudrait. Ça devient une fonction émancipatrice qui passe par des textes qui sont dits donc à la radio. Et peu importe finalement qui est Stern. Et donc ça joue, ça joue dans le bon sens et ça joue dans le mauvais sens. Peu importe qui est Stern, ça voudrait dire en fait que, imaginons, on saurait qui est Stern et elle mourrait, et ben tout de suite après, on aurait une nouvelle Stern qui apparaîtrait, puisque c'est les textes, c'est le geste émancipateur Stern. Donc c'est pas lié à un corps précis, mais ça veut dire aussi quand on rentre dans le moment d'une répression violente et dure de la part de ce régime qui se sent menacé, ça veut dire aussi qu'on peut attraper n'importe qui et dire voilà Stern, qu'on peut presque de manière, enfin presque à l'infini, répéter le geste de la punition sur n'importe quel corps, parce que Stern, c'est justement pas une personne précise et identifiable et identifiée.
Lucie Taïeb, est-ce que vous voulez nous lire un extrait des Échappés?
Oui. Donc on est au début du roman et on va entendre justement l'alternance des deux trames. Depuis longtemps, le train ne passait plus cet été-là. Il y a un étang et un jardin. Derrière la maison, c'est vert et aqueux. Ils vivent près des rails. De longues herbes sèches ont poussé sur les voies. Elles ont la couleur d'un vert, non vif, mais passé, presque jaune. En septembre, Oscar retournera à l'école. La fille apparaît une après-midi, silhouette précise dans la brume de chaleur estivale, tête toujours penchée vers quelque mystère du sol, avançant comme absente d'elle-même. On sait d'emblée qu'elle n'est pas d'ici, simplement à son air, sa manière de se tenir penchée comme si on ne la regardait pas. Plus tard, elle dit son nom, Corinne, qui rappelle le museau frémissant et humide, la douce fourrure, le cœur rapide du petit lapin qu'on nomme aussi Conil. En été, Oscar la contemple, yeux mi-clos ou grands ouverts, mais toujours par en dessous. Une femme s'appelle Stern, étoile, Mazel, Estrella, Stella. Ce qu'elle dit dans la petite radio n'a rien d'extraordinaire. Elle dit d'oublier la peur, elle dit nous n'avons pas d'ennemis, nous ne sommes pas menacés. Les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur, dit-elle, c'est une rhétorique. Bien avant que la menace ne rôde, des gens sont morts, des hommes armés, cagoulés, ont tué des innocents, ont allumé des feux à l'intérieur de nos frontières, à l'extérieur. Elle dit depuis toujours qu'ils ne sont pas nos ennemis. Elle dit aussi qu'elle ne connaît pas la politique, qu'il n'est pas question ici de politique, qu'il n'est pas question de services secrets, qu'il n'est question de rien de ce dont il est question d'habitude. Elle récite un poème, elle chantonne une chanson, sa voix est là, c'est douce, elle parle à son amant, à sa sœur, à sa mère, à son enfant. Elle parle sans hâte, elle n'a pas de visage, elle est une voix dans la radio grésillant chaque soir à la bougie. Et ceux qui l'écoutent prennent confiance. Ceux à qui l'on parle, comme à un amant, comme à un enfant, comme à une sœur, comme à une mère. Ils se tissent en eux et entre eux une forme de lien indéfinissable. Ils ne se connaissent pas, ne l'ont jamais vue, ne la verront probablement jamais. « Je porte une étoile invisible au creux de ma main, » dit-elle. « C'est pour cela qu'on m'appelle Stern. »
Merci Lucie Taïeb pour cette lecture des échappées, de Les Échappées, pardon, qui sont parues aux éditions de L'Ogre, malheureusement. Ah,
et je, oui, je serai je serai à Tours de nouveau le 13 février à la boîte à livres pour présenter le livre.
Voilà, notez ça, auditeurs, mais on pourra aussi le remettre dans le podcast. Il est presque l'heure de se quitter déjà, donc je remercie mes deux invités. Frédéric Breuil, vous êtes venu pour nous présenter les éditions Les Inaperçus. Alors peut-être que vous voulez dire, avant qu'on se quitte, où on peut retrouver vos livres ? Où est-ce qu'on peut les trouver ?
Eh bien, à la boîte à livres, par exemple. Oui, oui, et puis sinon, dans toutes les librairies, peuvent avoir ou ne pas avoir, mais en tout cas, vous pouvez commander. Et si vraiment c'est pas possible, ben sur le site lesinaperçus.fr.
Voilà, où on aura aussi le plaisir d'entendre la voix des auteurs, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des extraits.
Oui.
Voilà. Et Lucie Taïeb, merci à vous d'être venue aussi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.